pour un écrivain, il y a deux choses redoutables. La première, c'est l'échec, et la deuxième, c'est le succès.
On écrit pour que quelque chose subsiste.
Europe 1, 14h-15h, la voix est libre.
Ouvrir un livre et rentrer dedans quand c'est une belle histoire, c'est un merveilleux voyage pour pas un rond, quoi.
Nicolas Carreau.
Bonjour à tous et bienvenue dans La Voix est libre. Bon, on a connu des moments plus joyeux, mais on va essayer de sortir de chez nous malgré les circonstances, par les livres, évidemment, la seule évasion sans risque. J'allais dire, installez-vous tranquillement sur votre canapé, mais vous y êtes déjà sans doute pour cause de confinement. Confinement qui ne nous empêchera pas de commencer, comme toujours, par l'incipit, la première phrase d'un roman. Et justement, j'ai choisi Robinson Crusoe. Et aujourd'hui, j'aurais pu prendre La Peste de Camus ou Le Fléau de Stephen King, mais bon, c'est un peu anxiogène en ce moment. Robinson, lui, il a le mérite de correspondre à la fois à la situation de confinement et à l'idée d'évasion. Et puis surtout, il fait partie des personnages qui peuplent le livre de mon invité, vous allez voir. Robinson d'abord, le roman commence par cette phrase donc. Je suis né en l'année 1632 dans la ville d'York, d'une bonne famille, mais qui n'était pas originaire de ce pays-là. Celui qui parle, c'est donc Robinson Crusoe qui a voulu partir à l'aventure et est resté 28 ans confiné sur son île. Un chef-d'œuvre à relire. On en reparle tout à l'heure. Le comédien Philippe Dussault sera là aussi. Il nous lira les premières pages du Guide du Voyageur Galactique, un autre classique britannique mais dans un tout autre genre, bien au-delà de nos problèmes terriens. Plein d'autres livres à lire chez Hubert Védrine, l'ancien ministre des Affaires étrangères. Nous sommes allés visiter sa bibliothèque, c'était avant le confinement. Elle est remplie entre autres de bandes dessinées de Blake et Mortimer en particulier, vous verrez. Les libraires, eux aussi, participent à l'émission avec leurs bonnes idées de lecture comme toujours, mais d'abord donc c'est l'invité, et lequel, une star internationale. La Voix est libre, c'est parti, premier chapitre.
14h-15h sur Europe 1, La Voix est libre.
Nicolas Carreau. Mon invité est écrivain, mais aussi traducteur et surtout bibliophile et bibliothécaire. Il a dirigé la Bibliothèque nationale d'Argentine pendant plusieurs années. C'est la référence mondiale en matière de littérature. Il parle aussi très bien français. Il signe Monstres fabuleux et autres amis littéraires chez Actes Sud. Bonjour, Alberto Manguel.
Bonjour.
Je suis vraiment ravi et honoré de vous recevoir.
Je suis ravi d'être ici.
Pourquoi vous avez eu envie d'écrire sur... Alors, vous aimez les livres dans tous les sens, vous avez écrit sur les bibliothèques, vous avez même croisé Borges, enfin, vous êtes l'homme livre quasiment. Pourquoi, cette fois-ci, vous êtes intéressé aux personnages?
Parce que depuis mon enfance, plusieurs de ces personnages ont été mes amis, sont encore mes amis. J'ai connu le monde à travers eux. J'ai connu le monde à travers Robinson Crusoe, les petits chaperons rouges, Simbad. Et c'est eux qui m'ont donné les mots pour nommer mon expérience que j'ai eue après.
Mais vous êtes même ami avec des salauds alors, avec Dracula aussi.
Ah oui, oui, oui. Et Dracula est un personnage fascinant parce qu'il est la négation de tout ce qui est apparent. Il se cache, il appartient à la nuit, il ne peut exister sans sa terre natale. Et il est le fantôme de nos cauchemars, mais aussi de nos désirs les plus cachés et secrets.
Alors c'est une galerie de personnages de la littérature, sans forcément de lien d'ailleurs, on va y revenir. Mais vous dites ce sont des amis, mais ce sont des amis ou des modèles ?
C'est des amis, ce sont des amis. Non, je ne crois pas tellement aux modèles, parce que les modèles sont toujours décevants, que ce soit un politicien, que ce soit un artiste. L'homme, la femme, en chair et os, a toujours des traits qu'on ne veut pas, on ne doit pas imiter. Tandis que les personnages littéraires nous accompagne dans toute son ambiguïté. Et ce que je remarque depuis toujours, c'est qu'il change avec nous. Et avec les mêmes mots de l'histoire écrite, ils nous disent des choses différentes.
Et dans chaque portrait que vous faites des personnages, vous les regardez sous un angle qu'on n'a pas l'habitude de prendre, de choisir. Et on apprend beaucoup de choses aussi sur eux, même si on les connaît déjà. Parce qu'effectivement, si on lit l'histoire d'un personnage à tel âge et qu'on le relit 20 ans plus tard, on ne rencontrera peut-être pas la même personne.
Non, non. Et parfois, dans une histoire, on ne rencontre pas les mêmes personnages. On lit l'histoire du petit chaperon rouge, on fait peu d'attention à la grand-mère. Mais avec l'âge, on s'identifie peut-être plus avec la grand-mère qu'avec cette aventurière désobéissante.
C'est vrai que vous parlez... Alors, il y a des héros très très connus, Alice de Alice au Pays des Merveilles, Madame Bovary, etc. Mais vous vous intéressez aussi aux personnages secondaires. Parmi vos portraits, il y a Jim de Tom Sawyer. Et alors là, vous êtes allé chercher loin. Il y a Phoebe de L'Attrape-cœur, qui est la sœur du héros, mais qui n'est pas mise en scène dans le livre, puisque le livre, c'est le voyage initiatique du héros Holden Caulfield. Et vous parlez de sa sœur qui vous intéresse, Phoebe Caulfield.
Parce qu'elle est centrale sans se faire remarquer. C'est souvent dans les histoires des garçons, les histoires des hommes héroïques, le personnage secret vrai, le vrai protagoniste du roman, de l'histoire, c'est une femme. Et dans le cas de L'Attrape-cœur, Phoebe est celle qui interroge à Holden Caulfield, qu'il ne lui laisse pas s'échapper dans son adolescence avec ses lubies, qu'il le met face à la réalité concrète. C'est un personnage qui me fascine, mais que j'ai appris à aimer longtemps après avoir lu le roman pour la première fois.
Et alors, c'est quelque chose que je dis souvent, mais on en reprend conscience en lisant votre livre, c'est la force des classiques, c'est que tout le monde n'a pas lu Les Misérables, mais tout le monde connaît Jean Valjean. D'une certaine manière, les personnages sont plus forts que les romans eux-mêmes.
Et que ses auteurs. Sur Don Juan que sur Molière ou Sorille. C'est vrai, ils ont un poids dans notre imagination qui nous permet de trouver une identité qu'on ne sait pas avant de les connaître, qui est la nôtre. Ils existent dans l'imaginaire collectif, Don Quichotte, Macbeth, Jean Valjean, bien sûr, et ils continuent à être parmi nous, même si nous n'avons jamais ouvert le livre. Mais c'est un phénomène qui arrive aussi avec certaines images, avec certains yeux. Tout le monde connaît Venise sans y avoir été.
Oui, c'est ça. C'est la force du roman. Alors, il y a plein de choses. Je ne sais pas trop par où commencer parce que tous les angles, à chaque fois, sont très très intéressants pour chaque personnage.
Le conseil qu'il donne le roi à Alice, c'est commencer par les débuts, aller au milieu et quand vous arrivez à la fin, vous vous arrêtez.
Sauf qu'avec votre livre, on peut le prendre par tous les bouts et dans tous les sens et recommencer et picorer.
Oui.
Mais on parlait tout à l'heure des personnages secondaires. Ça me fait penser à un de vos héros que vous mettez en scène dans ce livre. C'est Charles Bovary.
Oui.
Et ce qui vous intéresse chez Madame Bovary, c'est Charles, qui est un personnage très effacé, très discret. Pourquoi ?
C'est que je n'avais pas remarqué à ma première lecture, c'est que l'histoire ne peut pas exister sans Charles Bovary. Il est au début du roman. Ce garçon maladroit qu'on présente à la classe, il est à la fin le veuf inconsolable après la mort de Madame Bovary. Et donc ça m'intéresse, ce personnage, encore comme Phoebe, central, sans se faire remarquer. C'est celui qui soutient tout le roman. Et il est le vrai amoureux. sa passion pour Emma. Je dis mal, ce n'est pas une passion, c'est l'amour. La passion est un sentiment instantané qui consomme, tandis que l'amour est un état créatif, consolant, qu'on apprend à cultiver et que Charles cultive parfaitement.
Et tous les personnages, même les secondaires, ont un message sur la vie à nous transmettre. D'autres personnages et d'autres caractères et donc d'autres leçons de vie. Le Petit Chaperon Rouge notamment, dans un instant.
14h-15h sur Europe 1, La Voix est libre. Nicolas Caro.
De retour dans La Voix est libre avec Alberto Manguel, le grand Alberto Manguel qui publie Monstres fabuleux chez Actes Sud. Vous nous y expliquez comment chaque personnage devient un type, un caractère, et vous essayez d'en tirer une leçon de vie. Vous parlez des grands personnages, Dracula, le capitaine Nemo, le monstre de Frankenstein. On rappelle au passage que Frankenstein, c'est le docteur et non pas la créature. Mais il y a aussi des personnages auxquels on n'aurait peut-être pas pensé. Le Petit Chaperon Rouge, par exemple, qui a beaucoup de choses à nous dire. Et vous nous apprenez dans ce livre que Dickens, Charles Dickens, quand il était enfant, voulait épouser le Petit Chaperon Rouge.
Mais on tombe amoureux de cette fille qui ne veut pas obéir une ordre qui est stricte. Et en même temps qu'il n'a aucun intérêt pour elle. Le chemin droit ne l'intéresse pas. Parce que, consciemment ou inconsciemment, elle sait qu'il n'y a pas d'aventure sans désobéissance. Une désobéissance créative qui donne lieu à l'histoire. Sans cela, nous ne la connaîtrons pas, ni nous ne lirons pas. Le petit chaperon rouge est vraiment le symbole de la petite fille qui veut être sa propre protagoniste et définir sa propre identité. Inconsciemment, elle sait qu'il n'y a pas d'aventure sans désobéissance. Une désobéissance créative qui donne lieu à l'histoire. Sans cela, nous ne la connaîtrons pas, ni nous ne lirons pas. Le petit chaperon rouge est vraiment le symbole de la petite fille qui veut être sa propre protagoniste et définir sa propre identité.
Alors, les personnages deviennent des types, des caractères, et vous parlez de Faust notamment, et c'est assez terrible puisque vous dites que Faust existe de nos jours, bien sûr, mais que c'est bien pire. Le Faust d'aujourd'hui ne cherche pas l'amour et le savoir, écrivez-vous, mais il cherche le bénéfice financier et la gloriole.
Tout à fait. Le moyen de communication des Faust d'aujourd'hui sont les Twitter et les sites Internet. Et pour ça, le Mephistophèle doit travailler beaucoup plus dur parce que l'âme de quelqu'un qui veut l'amour, qui veut le savoir, vaut beaucoup plus que l'âme de quelqu'un qui ne veut qu'un poste au Sénat ou au ministère des Finances.
Donc, dans une émission de télé-réalité, dites-vous.
Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est là les tristes Faust de notre époque.
Alors, vous parlez de Superman aussi, qui vous a fasciné quand vous étiez enfant.
Oui.
Et vous racontez dans ce chapitre consacré à Superman qu'un jour, vous regardez une série télé qui s'appelle Big Bang Theory, dans laquelle il y a un scientifique un peu fou et qui explique que Superman, c'est impossible et il a calculé la vitesse de vol de Superman et quand il raploïs, est-ce que c'est possible, etc. La réponse est non, c'est impossible. Mais c'est ça un personnage, c'est aussi l'impossibilité.
Oui, il faut réel. Croire à l'impossibilité, mais c'est une impossibilité qui doit être justifiée. Donc, ce personnage dans la série de télé dit que si il attrapait Lois Lane en chute, elle serait coupée en trois par les bras de fer de Superman, et qu'il serait plus charitable de la laisser écraser contre la rue. Mais chez Superman, ce qui m'a fasciné, c'est la solitude de Superman. Mmh. Enfant, j'ai eu une enfance très solitaire et je me suis reconnu, pas dans les muscles de l'homme de fer, mais dans le fait qu'il était isolé à cause de ses pouvoirs, à cause de son identité. Il n'y avait pas la possibilité de trouver quelqu'un comme lui qui soit sa compagne ou son ami.
Vous en avez déjà parlé dans d'autres livres, mais justement, quelle est la différence entre une expérience vécue en lisant un livre, un roman, par procuration, et la même expérience réellement vécue ? Est-ce que c'est la même chose ? Est-ce que c'est
non.
Mieux, moins bien ?
C'est différent. Et évidemment, il y a des expériences dans la vie, surtout des souffrances ou des grandes joies, qui n'ont pas leur équivalent dans la fiction. Mais la fiction n'est pas là pour remplacer la vie, sinon pour la nommer, pour nous donner un vocabulaire, pour nous approcher à une compréhension de ces expériences inexplicables. La mort d'un ami, la naissance d'un enfant, quand nous tombons amoureux, quand nous avons une peur inexplicable, toutes ces expériences-là se reflètent dans la fiction et les personnages de la fiction qui deviennent nos amis peuvent nous aider à nommer ces expériences. Je sais quand je suis tombé amoureux pour la première fois que les vers de Neruda m'ont donné des mots pour m'expliquer à moi-même un peu ce qui était en train d'arriver.
Il paraît que vous lisez la Divine Comédie tous les matins, c'est vrai ?
C'est vrai, depuis 15 ans. Il m'est arrivé, j'étais malade, je devais choisir un livre pour m'accompagner parce que je ne pouvais pas sortir de chez moi. Et j'ai choisi la Divine Comédie. J'avais essayé de la lire avant, mais je me suis rendu compte qu'il fallait arriver à mon âge, j'avais à ce moment-là 60 ans, pour l'entamer. Et c'est un chemin que je fais tous les jours et je suis toujours, tous les jours, surpris de la richesse et de la nouveauté et de la perfection de cette œuvre qui me paraît impossible, sauf qu'elle existe.
On rappelle, donc, c'est Dante Alighieri, le poète italien, qui visite successivement l'enfer, le purgatoire et le paradis. Qu'est-ce que vous y cherchez ? Des réponses aussi, par la poésie ?
Jamais des réponses. Vous savez, c'est le dogme ou le catéchisme qui vous donne des réponses. La littérature vous pose de meilleures questions. Et Dante m'interroge constamment à chaque fois que je tombe sur un chant que je connais presque par cœur, je découvre une nouvelle question. Par exemple, ce matin, je suis tombé dans le deuxième chant du purgatoire, la rencontre avec l'âme de Casella, son ancien ami de Florence qui est mort et l'âme arrive au purgatoire. Et Casella était un chanteur. Et Dante lui demande de chanter une chanson et là toutes les âmes sont autour de Casella qui chante et le gardien du purgatoire vient et dit mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire, vous devez monter au purgatoire, sauver votre âme, qu'est-ce que vous êtes en train de faire en écoutant une chanson, en écoutant de la musique. Et je me suis rendu compte que ce que Dante est en train de nous dire, c'est que même dans les moments les plus importants, les plus fracassants de notre vie, quand il s'agit de sauver notre âme, l'art est plus important et on s'arrête à écouter une chanson.
Ou à lire un livre.
Ou à lire un livre.
À découvrir des personnages qui sont dans votre dernier livre, Monstres fabuleux et autres amis littéraires. C'est chez Actes Sud. Merci beaucoup, Alberto Manguel.
Merci.
Europe 1.
Et dans un instant, bah, qu'est-ce que vous voulez ? Encore des livres. Philippe Dussault va nous lire un roman culte britannique, Le Guide du Voyageur Galactique. C'est du Monty Python en livre. A tout de suite.
La Voix est livre. Nicolas Carreau.
C'est le moment ou jamais pour prendre le temps de lire ou relire un roman culte. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un livre britannique cultissime, Le Guide du Voyageur Galactique. Le Guide du Voyageur Galactique, au départ, c'est un feuilleton radio diffusé en 1978. À partir de 79, c'est devenu un roman du même auteur, Douglas Adams. C'est de l'humour britannique à la Monty Python. Il y a 5 tomes et écoutez les titres. Le tome 1, c'est donc Le Guide du Voyageur Galactique. Le tome 2, Dernier restaurant avant la fin du monde. Ensuite, La vie, l'univers et le reste. Le tome 4, Salut et encore merci pour le poisson. Et le cinquième et dernier, Globalement inoffensive. C'est l'histoire d'Arthur Dent, un jeune anglais un peu mollasse. Il vit à la campagne dans une petite maison. Quand on le rencontre au début de l'histoire, il est très embêté parce que des bulldozers sont devant chez lui. Ils doivent raser sa maison, mais au même moment, son meilleur ami vient le chercher. Il y a urgence, il lui dit de lever le pouce en l'air et les deux amis sont pris en stop par un vaisseau spatial. Il était temps puisque la Terre est détruite quelques minutes plus tard. Et le meilleur ami d'Arthur lui avoue qu'il n'est pas terrien, mais qu'il travaille pour le guide du voyageur galactique, une sorte de guide du routard, mais à l'échelle de l'univers, et on suit ces deux voyageurs dans leur pérégrination. C'est complètement dingue, déjanté et très très drôle. Voici le tout début, lu par Philippe Dussault.
Tout là-bas, au fin fond des tréfonds inexplorés et malfamés du bout du bras occidental de la galaxie, traîne un petit soleil jaunâtre et minable. Un orbite autour de celui-ci, à la distance approximative de 150 millions de kilomètres, se trouve une petite planète bleu-vert et totalement négligeable dont les habitants, descendus du singe, sont primitifs au point de croire encore que les montres à quartz numériques sont une vacheté de chouette idée. Cette planète a, ou plutôt, elle avait, un problème, à savoir celui-ci. La plupart de ses habitants étaient malheureux la plupart du temps. Bien des solutions avaient été suggérées, mais la plupart d'entre elles faisaient largement intervenir la mise en circulation de petits bouts de papier vert. Chose curieuse, puisque, en définitive, ce n'étaient pas les bouts de papier vert qui étaient malheureux. Et donc, le problème subsistait. Des tas de gens se sentaient minables, et la plupart étaient effectivement misérables, y compris les possesseurs de montres à quartz numériques. Un nombre croissant d'entre eux partageait cette opinion selon laquelle leur plus grosse erreur aurait été, dès le début, de descendre des arbres. D'aucuns même affirmaient qu'avec les arbres déjà, et qu'on aurait mieux fait de ne jamais quitter les océans. Et puis, un beau jeudi, près de 2000 ans après qu'on eût cloué un homme sur un arbre pour avoir dit combien ça pourrait être chouette de se montrer sympa avec les gens, pour changer, une fille assise toute seule dans un petit café de Rigmansworth comprit tout ce qui ne tournait pas rond depuis le commencement et vit enfin comment on pouvait faire du monde un endroit agréable et chouette. Cette fois, c'était la bonne, ça marcherait. Et on n'aurait plus besoin de clouer n'importe où n'importe qui. Mais hélas, avant que la jeune fille n'ait eu le temps de trouver une cabine pour téléphoner à quelqu'un la nouvelle, une terrible catastrophe survint et l'idée se perdit à jamais. Ceci n'est pas l'histoire de cette jeune fille, mais celle de cette stupide catastrophe et de quelques-unes de ses conséquences. C'est également l'histoire d'un livre, intitulé « Le guide du voyageur galactique ». Qui n'est pas un livre terrien, jamais il ne fut édité sur Terre, et jusqu'au jour de la catastrophe, nul terrien ne l'avait vu, ni n'en avait entendu parler. Nonobstant, un livre tout à fait remarquable. En fait, c'était sans doute l'ouvrage le plus remarquable jamais publié par les éditeurs de La Petite Ours, dont aucun terrien n'avait non plus jamais entendu parler. Auprès de bon nombre de civilisations parmi les plus peinardes des confins orientaux de l'anneau galactique, Le guide du voyageur galactique a même supplanté la grande Encyclopédia Galactica comme dépositaire classique de la sagesse et de la connaissance, car Malgré ses nombreuses omissions, son texte largement apocryphe, ou du moins pour une bonne part apocryphe, il n'en surpasse pas moins les ouvrages antérieurs sur deux points importants. Primo, il est légèrement moins cher. Et secondo, sur sa couverture, on peut lire en larges lettres amicales la mention « Pas de panique ».
C'était donc le début du guide du voyageur galactique lu par le comédien Philippe Dussault au flegme tout britannique, justement. Dans un instant, encore des livres. Avant le confinement, je suis allé visiter la bibliothèque d'Hubert Védrine. Il a l'air comme ça très porté sur les rapports de Cour des comptes ou les théories de relations internationales. C'est vrai qu'il aime ça. Mais ce qu'il préfère, c'est la bande dessinée. A tout de suite.
14h-15h sur Europe 1, La Voix est libre. Nicolas Caro.
La Voix est libre continue. Hubert Védrine, l'ancien ministre des Affaires étrangères, a publié récemment avec son fils Laurent Védrine la vraie fausse biographie de Ulrich, vous savez, le méchant de Blake et Mortimer. Ulrich, la biographie non autorisée, chez Fayard. Je me suis dit qu'il ne devait pas y avoir que des manuels de géopolitique chez lui. Bien avant donc le confinement, je suis allé le voir et voilà ce que j'y ai découvert. Bonjour Hubert Védrine.
Bonjour.
Merci beaucoup de nous recevoir chez vous. Je préviens tout de suite les auditeurs, il y a des travaux à l'étage du dessus, donc il y a quelques... Du dessous, pardon.
Les deux.
Les deux. Ah bah dites donc, vous êtes cernés. Il y a des perceuses et des coups de marteau, mais c'est pas grave. C'est ça, c'est la vie, on est chez vous, là.
On va essayer de se comprendre quand même.
C'est un peu plus compliqué pour lire.
Non, parce que c'est... ils ne font pas de bruit la nuit.
Oui, et vous lisez la nuit, c'est ça?
Je lis un peu tout le temps, mais aussi la nuit.
Là, on est dans votre salon, un grand salon, salle à manger même. Il y a une table sur un côté et puis une table basse de l'autre. Et puis, il y a un piano droit, vernis blanc. C'est vous qui jouez ?
Non, c'est pas moi, c'est pour les enfants. Mais comme il était un peu cabossé, abîmé pendant les... Parce qu'on vient de revenir, c'est pour ça que c'est très en désordre.
Parce que vous aussi, vous avez fait des travaux chez vous.
Des travaux, voilà. Oui. Des travaux pendant plusieurs mois. Donc, il a souffert. Mais c'est à la fois joli comme meuble. Et il y a plusieurs personnes dans la famille qui jouent un peu.
C'est pas courant un piano blanc comme ça,
qu'est-ce vernis. Que vous en pensez ?
C'est pas mal, je trouve ça joli, ouais.
C'est joli, hein.
Il y a un côté années 70 un peu yéyé, je trouve. Un peu Eddie Barclay.
Je sais pas si ça n'a pas été inventé avant. C'est très doux.
Alors, il y a des livres évidemment partout. Je sais qu'il y en a à côté dans votre bureau et dans votre chambre. On ira aussi. Mais là, on est dans le salon et il faut commencer par là, évidemment, puisque donc il y a une sorte de bibliothèque spécialisée dans François Mitterrand. Alors, il y a des essais, il y a quoi ? C'est toute la collection ?
Non, ce n'est pas toute la collection. D'ailleurs, j'ai donné une très grande partie de mes livres, 200 ou 300, à l'Institut Mitterrand. Mais j'ai gardé, évidemment, des livres de François Mitterrand qui sont dédicacés. Oui, il y en a plusieurs, là.
Vous pouvez regarder ou...
Oui, bien sûr, vous pouvez regarder, oui, dédicacés. Alors, c'est soit moi, soit des membres de ma famille. Vous voyez, par exemple, c'est pour mon épouse.
Ah, pour Michel Védrine.
Voilà.
En hommage amical. Il y a bien une soixantaine de livres sur Mitterrand, ou de Mitterrand. Je rappelle que vous avez été ministre des Affaires étrangères sous François Mitterrand.
Non, il faudra corriger. J'ai passé 14 années à l'Élysée avec François Mitterrand.
Ah oui.
Comme conseiller diplomatique, porte-parole et secrétaire général. Et j'étais ministre sous la présidence de Jacques Chirac
avec
Lionel Jospin.
Voilà. Vous preniez des notes quand non. Vous travailliez avec lui ?
Je n'avais pas le temps.
Non ?
J'ai des bouts de notes, mais vous voyez, c'est une phrase comme ça. Tout ça est rassemblé dans des boîtes à chaussures. Mais je n'ai pas tenu un carnet. D'ailleurs, je ne comprends pas comment font les gens qui écrivent des carnets tous les jours.
Il était comment comme patron, comme collègue ? Vous voyez ce que je veux
collègue,
dire ?
Non,
non mais vous voyez ce que je veux dire ? Comme
collègue,
relation de travail.
Si vous demandez à un président américain comment était son collègue Mitterrand, ben, vous êtes sous les ordres du président.
Non, c'est mais pas un collègue. Vous voyez ce que je veux dire ? Dans la même entreprise,
c'est pas pareil.
Votre patron,
non, c'est pas
c'était
pareil.
Comment ?
C'est pas pareil, parce que l'élection au suffrage universel, c'est une sorte de... Ça change complètement les choses. Donc c'est l'homme qui préside, qui incarne, qui tranche, qui a le dernier mot, qui ne s'occupe pas de tout à la place des autres. Il y a tout un... Donc c'était une relation marquée, surtout pour beaucoup de gens de mon âge. En 80, on avait 33, 34, 35 ans, vous voyez. Alors, il y avait aussi des gens expérimentés comme Rousselet, Bérégovoy, mais on était fascinés. Donc c'était de l'ordre de la vénération respectueuse.
C'est ce que j'allais dire. Et votre réponse l'illustre d'une certaine manière. Quoi.
Et ça n'empêchait pas de...
Il y a une sorte de fascination pour Mitterrand quand même.
Oui, mais... Il y avait deux choses. Il y avait la personne Mitterrand qui était fascinante, y compris pour les gens qui le détestaient, mais dont on voit bien qu'ils étaient fascinés par lui. Et puis le président de la République sur la Ve République. Donc c'est quelque chose, mais qui nous était naturel. Il ne faut pas se tromper, il ne faut pas faire d'anachronisme. Ça n'est rien de pesant, rien d'handicapant. Il n'y a rien qu'on ne puisse lui dire, vous voyez. Dès qu'on avait une chose à faire, une remarque, une interrogation, une critique, dès lors que c'était un peu argumenté, un peu articulé, tout pouvait se dire.
Et juste à côté, c'est les Américains. Il y a Kissinger, Madeleine Albright.
Alors ça, c'est mon fond politique étrangère, vous voyez. Kissinger, et puis j'ai des livres de Clinton. J'ai des livres de Clinton, d'Hillary Clinton, Madeleine Albright, avec qui j'ai travaillé. Et puis j'ai, pas ici, mais à mon bureau, où j'étais une bibliothèque géopolitique, proprement dite. J'ai tous les livres des penseurs américains contemporains, enfin, dans ces domaines. Alors, j'ai les autres livres de Kissinger, mais j'ai aussi Brzezinski, j'ai aussi Nye, j'ai aussi Friedman, tout ça. Mais c'est pas là. Mais j'en ai pas besoin chez moi tous les jours.
Vous en lisez encore des livres politiques comme ça, ou écrits par des politiques, ou des conseillers?
Les livres contemporains?
Récents, non, je veux dire, quand vous étiez en poste, dans la politique. Je comprends, mais aujourd'hui, est-ce que vous vous repliez vers les romans ou vers autre chose?
Je lis beaucoup de choses, et je lis sans arrêt, je suis un peu maniaque de lecture, et je lis des choses très différentes. Donc j'ai toujours en train un classique que je relis, un polar que je lis, un livre politique, un essai sur la Chine, et puis autre chose, un peu, vous voyez, 5-6 choses. Dans le paquet, il peut y avoir de longues semaines où je ne lis rien de politique. Ça peut m'arriver. Puis à un moment donné, il y a un portrait qui est quand même intéressant, ou un regard, mais ce sera plutôt des livres d'interprétation sur ce que devient ce pays, le livre de Jérôme Fourquet, par exemple, récemment.
Mais ça vous intéresse encore? Vous êtes jamais, vous avez jamais été en overdose de politique en vous disant, il y a quand même...
Non, mais d'abord, j'ai jamais fait de politique au sens politicien. J'ai jamais dirigé un parti. J'ai pas eu à mener des combats électoraux. Par les hasards de la vie, je me suis trouvé au sommet du système à l'Élysée, donc j'ai dans le pouvoir. Le pouvoir, les responsabilités gouvernementales, l'état du monde, les relations avec les États-Unis ou la Chine, etc. Mais je n'ai pas passé ma vie, une vie harassante, à m'épuiser dans des combats politiques, à combattre des tas de rivaux éventuels.
D'accord, mais je parlais aussi du pouvoir. Est-ce qu'un jour, vous ne vous êtes pas dit, laissez-moi tranquille avec les affaires du monde, je vais m'occuper de moi, aller boire un martini?
Non, je ne pose pas les deux. De toute façon, l'histoire m'a toujours fasciné. L'histoire avant, bien avant, très jeune, même avant que je sois à l'Élysée. J'ai d'ailleurs un étage entier de la bibliothèque du bureau que vous avez vu, composé de biographies. Donc c'est la même chose. Donc cet intérêt n'a pas disparu après les 20 années au cœur du pouvoir. Donc il y a des moments de pouvoir où je l'ai connu, j'étais dedans et je lis des choses sur les gens que j'ai côtoyés, à commencer par Mitterrand, mais pas que Mitterrand, naturellement, il y a tous les autres. Et après, mon intérêt continue.
Et juste au-dessus, il y a des vieux Jules Verne dans la collection Hetzel,
oui.
Donc l'éditeur historique avec les couvertures rouges. Beaucoup de gens ont ça dans la maison de campagne, justement, en général. Qu'est-ce qu'ils font là, ces Jules Verne? C'est vous qui les avez lus?
Ils viennent de ma femme, ceux-là, de la famille de ma femme, mais on les a gardés ici. On a d'autres, en effet, dans d'autres maisons, mais ils sont beaux. Ils évoquent tout un monde. Il y en a un qui est réédité, hein, vous avez vu. Il y en a plusieurs qui sont anciens. Et c'est toute une vision extraordinaire du monde, de découverte, d'invention. Une époque où le monde n'est pas fini. On n'a pas fait complètement le tour. Puis il y a une sorte d'engouement extraordinaire pour les innovations, en circulant en avion, en ballon, en sous-marin, tout ça est prodigieusement excitant. Et ce n'est pas du tout l'époque désabusée, revenu tout que nous connaissons aujourd'hui. Donc c'est ça qui est chouette dans Jules Verne.
Et ça, c'est
cette énergie un peu neuve, vous voyez.
C'est une très belle collection. Y compris sur la tranche, ça habille vraiment bien une bibliothèque. Est-ce que vous aimez aussi ce côté objet du livre?
Pas tellement.
Est-ce que vous le prenez en compte?
Non, j'aime bien cela, mais je ne les choisis pas pour ça. Par exemple, là-bas, il y a une très belle encyclopédie des voyages,
ouais, superbe.
Qui est ancienne du 18e. Ça vient d'un de mes oncles, Pierre Chigaud. Ça, c'est très chouette, mais ce n'est pas le but principal. Donc, je ne pourrais pas être un vrai bibliophile, au sens des gens qui achètent la première édition, la deuxième édition d'un tel. Bon, je connais un peu, mais je ne suis pas suffisamment érudit pour ça. Donc c'est quand même le contenu qui l'emporte, sauf quand l'objet livre dégage un parfum. Quoi.
Là, il y a un très joli livre, BCBG, Bon Chic Bonjour.
Oui, mais il est très ancien, regardez.
C'est le guide du Bon Chic Bonjour.
C'est les hasards des déménagements, réemménagements.
Vous êtes Bon Chic Bonjour, vous, Hubert Védrine?
Je suis un mélange à ma façon de toutes sortes de choses. Mais
vous n'aimez pas qu'on vous catégorise?
Mais ça m'enfermerait, vous voyez. Ça me priverait de quelque chose.
Je viens de remarquer un fauteuil très étrange, en fait, à côté de la table basse, là.
Bah, il est à vendre, donc si vous le voulez.
C'est quoi ? C'est un meuble design ? Qu'est-ce que c'est ?
Oh, c'est un...
Je ne sais pas trop comment dire. C'est une sorte de support avec au milieu une sorte de fauteuil à bascule.
C'est une sorte de chaise longue, Art déco, justement.
Art déco, d'accord.
Art déco. Ouais. Donc, si... on est très bien dedans, mais ça ne va pas du tout dans ce salon. Donc, si vous êtes preneur, on peut discuter le prix tout de suite.
Ah, vous savez, je ne suis pas riche. Hein. Ouais, je vous en donne 25 euros.
C'est pas assez quand
je
même.
Vous en débarrasse. Ouais,
pas assez. Même si vous le transportez sur votre dos.
Il y a d'autres livres, je crois, donc à côté dans votre bureau. Là, on est dans le couloir qui dessert plusieurs pièces. Là, il y a un autre bureau, mais c'est celui de votre femme, je crois.
Voilà.
C'est là, il y a tout un tas d'archives aussi.
Là, c'est pas la bibliothèque au sens livre. Hein. C'est des livres de travail, c'est des agendas sur des années et des années.
Enfin, il y a des secrets d'État. Faites-nous un peu rêver.
Non, pas là. Pas là, parce que tout ce qui était archives présidentielles, c'est parti aux archives. D'ailleurs, Mitterrand est le président qui a le plus donné, qui a décidé qu'il fallait vraiment donner un maximum de choses aux archives et pas garder.
Est-ce qu'il y a des choses
et
que vous êtes
d'autre
le seul
part
à savoir
d'autre part, mes archives de ministère des Affaires étrangères, elles sont aux archives du Quai d'Orsay.
Est-ce qu'il y a des choses qui sont classées secret défense ou même pas classées du tout, que vous êtes le seul à savoir, qui concernent les relations internationales
Seul, je ne pense pas. Il y a un certain nombre de choses où je fais partie du tout petit nombre de gens qui connaissent l'explication vraie de tel événement, de choses comme ça. Mais
vous connaissez l'assassin de Kennedy, par exemple?
Non.
Ou qui est l'homme au masque de fer? Ça, vous pouvez me le dire.
Ça, il faut vous reporter des ouvrages sérieux. Des historiens qui ont exploré toutes les hypothèses.
Alors, comment s'est classé tout ça?
Alors, dans cette bibliothèque où nous sommes, il y a une bibliothèque entière. De biographie.
Avec tout pour vous, c'est un genre en particulier, la biographie.
Oui.
Vous faites partie de ces gens-là.
Je les ai regroupés à part, ça a un certain sens. Alors, il n'y a pas que les biographies au sens classique. Là, vous voyez, on a le dictionnaire amoureux de Kessel, par exemple.
Ah, il y a Talleyrand aussi. Alors, on dit Talleyrand ou Talleyrand, ça dépend des gens. Vous dites quoi, vous?
Si on veut avoir l'air très au courant, on dit Talleyrand.
On dit Talleyrand.
La prononciation de l'époque.
Et c'est un de vos héros, ça, ou pas?
Héros, c'est
je me suis toujours dit...
Oui, c'est fascinant.
Hubert Védrine, on peut rapprocher.
C'est un personnage absolument fascinant de culture, d'intelligence,
de cynisme,
d'élégance.
Aussi.
Ça dépend comment vous appelez le cynisme, parce que la définition philosophique du cynisme, ce n'est pas du tout ce qu'on dit aujourd'hui.
Non, je parle de la définition moderne.
Le cynisme, c'est le fait de pouvoir oser braver l'opinion dominante.
Ça, c'est les philosophes cyniques.
Donc les journalistes devraient adorer ça.
Oui. Ne jouons pas sur les mots.
Alors, au sens courant, c'est-à-dire... immoralisme, etc. Mais ça ne veut rien dire dans le contexte de l'époque. Il ne faut pas faire d'anachronisme. Il faut voir l'époque et il faut voir ce qu'il a fait. De toute façon, il y a un côté obscur, il y a une face noire. C'est un personnage très, 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 très fascinant. Hein. Bien sûr, j'ai d'ailleurs...
Mais dans l'exercice du pouvoir, d'ailleurs, en particulier, ça ne veut rien dire. La morale n'a pas sa place. On est forcément amoral à la Machiavel.
Ce qui est vrai, c'est que la morale pour tout le monde, y compris pour l'individu qui peut être par ailleurs ministre ou je ne sais quoi, mais qui doit se comporter bien dans sa vie personnelle, ça ne donne aucun éclairage pour les choix à faire, en fait. C'est ça le fond de la pensée politique. C'est que très souvent, vous êtes devant plusieurs mauvaises décisions, plusieurs décisions lourdes de conséquences, et vous supposez, non, il n'y a pas la bonne décision et la mauvaise décision. La vraie vie n'est pas manichéenne, donc il n'y a pas le bien et le mal, les bons et les méchants.
Mais
donc
vous avez déjà été pollué par
deux,
la
en fait.
Morale en prenant une décision.
Non, mais
vous essayez de chasser ça. C'est...
Non, c'est pas que ça.
De pas regarder les choses de cette manière-là.
C'est pas. Oui, ça n'intervient pas. On se dit quand on est au pouvoir, soit pour donner un avis, hein, à un président, soit qu'on est soi-même ministre, on dit j'ai le choix entre quoi et quoi en fait. Et qu'est-ce que je peux faire de mieux? Dans certains cas, c'est quelle est la moins mauvaise des solutions. Mais on n'est pas sûr des conséquences en fait. Donc, il n'y a personne qui soit que immoral, ça peut exister peut-être, ou que moral, ça n'existe pas. Quelqu'un qui serait que moral, il ne pourrait rien gérer, même dans sa vie personnelle. Donc, il faut se méfier du simplisme, il faut se méfier de tout ça. Donc, les gens comme Talleyrand, c'est savoureux, mais on ne peut pas reproduire mécaniquement. Il y a suffisamment de biographies dans tous les sens, y compris Mao Tse-tung. Hein. Bon, Mao Tse-tung, il a tué plus de gens que Staline, qui avait tué plus de gens qu'Hitler. Bon, il n'empêche qu'on peut lire dessus. Hein. Donc, c'est pas, je ne raisonne pas en termes de modèle.
Il y a toute une bibliothèque consacrée à la bande dessinée.
Alors là, j'en ai un.
Avec évidemment du Blake et Mortimer.
Oui.
Que vous connaissez bien.
J'en ai beaucoup, puisque là, justement, on vient d'écrire avec mon fils aîné Laurent la vraie biographie d'Ulrich. Alors les BD, j'en ai plein. Il y a ça. J'ai l'équivalent à la campagne, mais tout un mur. Et dans la chambre d'à côté aussi.
Et vous avez commencé par la bande dessinée quand vous étiez enfant ou c'est venu plus tard
Dans ma famille, on n'opposait pas la BD au reste.
Ah oui, ça c'est une bonne idée. Oui.
On ne disait pas, il faut lire que Balzac et pas la BD. Donc j'étais passionné par Balzac, mais il y avait la BD, ça faisait partie de l'ambiance, du milieu, et on passait de l'un à l'autre. Et puis donc il y avait Tintin, Blake et Mortimer, après il y a Lucky Luke, après Astérix, tout ça. Enfin, de la BD, on va dire, classique qui correspond à mes années entre 5 et 20 ans, vous voyez. Ligne claire. Pour ça d'ailleurs que dans ce que j'ai continué, là c'est tous les essais, hein, plus politique et historique. Paléo-anthropologique.
Non, mais là, je vous ai emmené sur vers la fiction. Il faut qu'on y reste. Et d'ailleurs, on change de pièce en même temps qu'on se parle. Pièce. Et là, on est dans votre chambre où je sais, pour l'avoir vu avant d'ouvrir les micros, qu'il y a aussi une bibliothèque de bandes dessinées avec toute la collection Largo Winch. C'est une passion, Largo Winch ? Vous le relisez régulièrement ?
Oui, j'ai bien aimé Largo Winch. C'est le scénariste en âme est hyper doué. Le dessinateur Franck est hyper doué. Et c'est vrai que je trouve qu'il y a les qualités de la BD classique ligne claire, vous voyez. Et en même temps, on est dans le monde contemporain.
Et là, vous avez un
contemporain de l'économie globale de marché dérégulée, financiarisée, etc. Voilà. Enfin, j'ai tout Manara aussi, vous voyez.
Ah oui, dites donc, oui.
Oui. Tout Manara.
Manara, qui est donc la grande BD érotique.
Alors, BD érotique merveilleusement dessinée. Mais il faut quand même rappeler qu'il a fait un, je ne sais pas où ils sont récemment.
Deux tomes sur Caravage. Magnifique.
Voilà. Absolument extraordinaire. Ouais. Formidable.
Grand succès.
C'est des grands talents. Hein.
Merci beaucoup, Hubert Védrine, de nous avoir reçus.
Merci pour votre visite.
Europe 1. De retour en studio, merci à Olivier Duval pour la prise de son. Et je rappelle donc le titre du dernier livre d'Hubert Védrine, Olric, la biographie non autorisée, c'est chez Fayard. Restez là, les libraires de La Voix et Livre arrivent avec deux bonnes idées de lecture. Ils ont fouillé de fond en comble leur rayonnage pour trouver les deux meilleurs livres à ne pas rater cette semaine. Vous ne pourrez pas aller les chercher tout de suite, mais notez-le sur un bout de papier. Et puis après le confinement, vous filez chez eux. A tout de suite.
14h-15h sur Europe 1. La Voix est Livre.
Nicolas Caro.
Retour dans La Voix est Livre avec les libraires de l'émission. Aujourd'hui, Thibaut Raden de la librairie L'Écriture à Vaucresson et Jérémy Banel, librairie Lamartine à Paris. Salut les libraires.
Salut Nicolas.
On commence avec Thibaut Raden. C'est un manga.
Ouais, aujourd'hui, je vais vous parler d'un manga qui s'appelle Asadora. C'est de Naoki Urasawa et c'est chez Big Kana. Naoki Urasawa, il est connu pour avoir fait...
On sent quand même le spécialiste du Japon. Avec la prononciation de l'auteur, on y est.
Bah, en fait, ce gars-là n'est pas très vieux pour un mangaka et il a fait presque que des classiques comme Monster qu'on peut voir sur l'affiche, sur la couverture. Pardon. Et donc là, c'est Asadora et c'est l'histoire de cette petite fille qu'on voit en couverture qui s'appelle Asa. Et Asa, ça veut dire matin en japonais. Le début du roman, du manga, il s'ouvre en fait sur Tokyo en 2020 qui est sous les flammes. On ne sait pas pourquoi. Il y a d'ailleurs une petite référence aux Jeux Olympiques qui vont bientôt se passer parce qu'ils ont peur que le nouveau stade brûle. Mmh. Et on nous explique à travers quelques petites phrases que l'histoire qu'on va lire va se dérouler de l'après-guerre jusqu'à aujourd'hui. Et à ce moment-là, on arrive en 1959, je crois, et on découvre Asadora dans une ville portuaire. Il y a un typhon qui s'amène et elle court pour chercher un médecin parce que sa mère est en train d'accoucher d'un énième enfant. Le médecin y va et la jeune fille reste ici. On lui dit de se cacher parce que déjà il y a le typhon et apparemment il y aurait aussi des kidnappings d'enfants. Alors, c'est pas du tout plombant. Au contraire, le dessin de Urasawa, il est génial parce qu'il a un côté un peu caricatural, mais très réaliste. Et en fait, cette jeune fille, elle va partir. Elle va rencontrer un garçon qu'elle connaît déjà, qui court parce qu'il veut s'entraîner absolument pour les Jeux Olympiques. Elle va courir avec lui et à ce moment-là, elle va disparaître, on sait pas pourquoi. Et on va la retrouver, kidnappée par quelqu'un. Elle va avoir une discussion avec lui. C'est une fille qui est pleine de caractère. Et c'est ça qui est super chez cet auteur. C'est qu'il n'a jamais ses personnages. Il est hyper généreux avec eux, que ce soit des hommes, des femmes, des enfants, des adultes, peu importe. Mmh. Et donc, elle, Asa, c'est une petite fille qui a 10 frères et sœurs. Sa mère ne se rend même pas compte qu'elle n'est pas là. Elle a un prénom très court, alors que ses frères et sœurs ont des longs prénoms. Et du coup, c'est ça qui fait sa force. C'est que comme elle est invisible aux yeux des gens qui sont censés l'aimer le plus... Eh ben, elle se montre hyper vaillante, hyper courageuse. Le typhon passe, il fait des dégâts monumentaux. Elle est à la recherche de sa famille. Et en fait, ce kidnappeur était un pilote. Et dans ce premier tome, ils vont les deux s'entraider. Déjà lui, parce qu'il a, il a des choses à prouver, et elle, parce qu'elle veut retrouver sa famille. Mais en fait, pour un premier tome, déjà, on a presque l'impression qu'on pourrait lire que celui-là, que ça suffirait comme histoire.
Il y en a combien en tout ?
Bah, ça vient de commencer, donc je ne sais pas encore combien il va y en avoir. C'est censé être une histoire courte, hein, parce qu'il ne se lance plus dans des trucs très très longs. Mm-hmm. C'est un premier tome qui est une ode au courage et une ode à des choses magnifiques.
Asadora Naoki Urasawa.
Urasawa.
Ça va. Jérémy Vanel, c'est à vous un roman au Tripode, la superbe maison d'édition.
Voilà, j'allais le dire. Un roman au Tripode de Luce Desrameaux qui s'appelle Le Détour et qui est en fait une réédition, puisque c'est un titre qui avait déjà été publié en France à la fin des années 70. Et c'est un roman, pour l'appeler comme ça, qui est traduit de l'italien. C'est la longue réécriture sous forme fictionnelle de l'expérience de l'auteur, ou du double de fiction de l'auteur, parce qu'on évolue toujours entre ces... Dans ces eaux-là un petit peu troubles, qui est en fait jeune fille à 18 ans d'une famille de, on l'apprend au fur et à mesure du livre, hein, d'une famille de dignitaires fascistes italiens, qui décide de partir travailler d'elle-même dans un camp de travail allemand en 1943. Donc on n'est pas dans un camp de concentration, on est dans un camp de travail. Et là, elle revient pendant les 20 ans qui constituent l'écriture du livre, qui s'étale de 1953 à 1979, elle revient sur cette expérience, sur tout ce qui lui est arrivé, le camp, les évasions, la reconstruction personnelle, on va dire, les retours dans les différents camps, etc. Elle revient sur ça, qu'elle écrit, qu'elle réécrit, qu'elle reprend. Donc il y a cette forme qui est très, très, très originale, parce qu'on voit qu'elle-même réexplore sa propre mémoire pour raconter au mieux ses expériences, avec des retours, des choses qui sont développées dans une partie qui n'était pas dans la précédente. Ça fait de ce livre un livre d'abord incroyable à lire, d'une puissance folle dans la façon dont elle a de s'auto-ausculter et d'ausculter la mémoire de ce moment-là. Pourquoi elle, jeune fille, a fait ce choix-là qui pourrait paraître absurde de partir dans un camp? Comment elle a survécu? Qu'est-ce qu'elle y a tiré comme leçon de vie sur les hommes en général, sur elle-même? C'est particulièrement puissant pour ça. Et il a en plus l'avantage, on va dire, la qualité à laquelle on ne croirait pas de premier abord, que c'est un livre qui est plein de vie, qui est plein de courage, j'oserais pas dire d'espoir, mais d'envie de vivre en tout cas, des galeries de personnages qu'elle a rencontrés, avec évidemment des salauds, mais aussi des gens solidaires, des gens beaux, des gens humains qui donnent envie d'y croire. Et dans une littérature sur les camps, la guerre, où il y a quand même beaucoup de choses, évidemment, c'est un livre assez singulier et d'une force rare dont il est bon qu'il ait été réédité.
Alors j'aime beaucoup sur le bandeau, il y a une citation.
Oui. C'est une citation de Goliarda Sapienza, qui est une autre grande autrice du Tripode, qui dit « peut-être un chef-d'œuvre absolu ».
Je sais pourquoi ce peut-être, c'est terrible.
Et pourquoi ce peut-être, c'est vrai, ça fait presque douter, mais on peut dire non, c'est un chef-d'œuvre absolu.
Ok, ça marche. Le Détour, donc, de Luce Desrameaux, c'est au Tripode, et Tibor Aden, Asadora, je rappelle, c'est un manga de Naoki Urasawa. Merci beaucoup les libraires, c'était la dernière page de cette émission. Merci à Agnès Vaudin pour son aide, merci à Boris Paczynski, l'homme aux doigts de fée, pour la réalisation, et à Xavier Joly pour sa programmation musicale. On se retrouve la semaine prochaine, on ne lâche pas les livres, on trouve toujours un moyen pour s'en procurer, pour en lire, pour en parler. À la semaine prochaine pour des invités, des livres cultes encore, et des bibliothèques bien sûr.
14h-15h sur Europe 1, La Voix est libre.
Nicolas Carreau.